France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Aujourd'hui, comme nous vous le proposons régulièrement, jeudi tous les 15 jours, Jean-Louis Laville, professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, présentera une nouvelle chronique solidaire autour de l'économie sociale. Une bonne occasion pour comprendre plus clairement, plus simplement, le monde protéiforme de l'économie dite sociale et solidaire. Mais tout d'abord, place aux initiatives dans notre département de la semaine, Meurthe-et-Moselle, avec une épicerie doublée d'un espace très original à Pont-à-Mousson.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Stéphane Thérault, bonjour.
Bonjour.
Stéphane, vous êtes président de PAM Bio, PAM, P-A-M comme Pont-à-Mousson, bio.
Tout à fait.
Alors, j'ai vu les photos des personnes de ce lieu dont on va décrire le fonctionnement. J'ai vu l'établier PAM Bio, l'épicerie animée.
Tout à fait. C'est le nom que nous avons trouvé, effectivement, pour décrire ce projet. Pour tout dire, dans l'histoire du projet, au début, on appelait ça un magasin bio à PAM, mais pas que. voilà. Mais pas qu'un magasin, parce qu'il y avait l'idée d'en faire un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu d'expérience, un lieu de sensibilisation.
Mmh. C'est pas un magasin collaboratif, coopératif.
Alors, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, mais le magasin en lui-même est ouvert à tout public. Donc, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de restriction à venir le visiter, faire ses courses, discuter, boire un coup, etc.
Et qui se charge de la gestion ?
Alors, aujourd'hui, nous avons une salariée qui est chargée de l'animation et de la gestion du magasin, avec l'aide d'un certain nombre de bénévoles, parce qu'une salariée ne suffit pas. Et nous avons tout un groupe de bénévoles qui est aussi bien engagé dans la gouvernance de la société, de la SIC, que dans la constitution du programme d'animation, dans l'animation, dans les travaux, dans le contact avec les fournisseurs, dans la communication, etc.
Mmh. 160 sociétaires dans la SIC, c'est ça ?
167 depuis quelques jours, oui, tout à fait.
Ça augmente.
Alors, ça monte encore, ouais. C'est une joie.
Ouais. Qui sont ces sociétaires ?
Alors, ce sont bien sûr principalement des personnes qui sont mobilisées par l'esprit, le projet de PAM Bio, c'est-à-dire, on va dire en deux mots, c'est la transition citoyenne, ou en trois mots, la transition citoyenne et écologique, puisque ce projet est vraiment né de cette envie de créer quelque chose qui soit un outil au service de la transition sur Pont-à-Mousson. Mmh. Pont-à-Mousson, bien sûr que peut-être peu de gens connaissent, mais c'est une petite ville qui se trouve juste au milieu entre Nancy et Metz. Et donc, c'est dans un sens, c'est un peu un centre local à l'écart de ces deux métropoles. Et il y a un groupe de transition citoyenne qui existe depuis pas mal d'années maintenant, qui mène différentes initiatives avec des vergers en partage, avec des ciné-débats, avec un système d'échange local, etc. Et c'est au sein de ce groupe de transition qu'est né PAM Bio. Mmh. Et dès que l'idée a été lancée, en fait, il y a des dizaines de personnes, puisqu'à la première réunion publique, il y avait 70 personnes, qui sont venus en disant, mais nous, ça nous intéresse de participer à ça, de mettre un peu des fonds. Voilà. Mmh. Alors, chacun à sa mesure, de prendre une part ou plusieurs parts de la future société, et de contribuer bénévolement, dans la limite de ses moyens, à créer ce lieu pour viser ces différents objectifs, en fait. Mmh. C'est-à-dire, PAM Bio, c'est de l'alimentation bio et locale, principalement. Alors, locale autant que possible, avec tout un travail encore en cours sur... comment on définit notre politique d'approvisionnement, c'est-à-dire c'est quoi nos critères ? Parce que si on fait vraiment que local, ben, on n'aura pas grand-chose. On a besoin d'élargir un petit peu notre périmètre et en même temps, dans quelles conditions on le fait ?
Oui.
Il y a tout un ensemble de réflexions qui ont été menées pour établir ce projet et continuer à l'établir actuellement.
Vous avez combien de références actuellement, magasin ?
On est aux alentours de 1400.
Pas mal.
À peu près 1400, c'est pas mal. C'est un énorme travail qui est encore en cours et avec besoin d'y travailler pendant longtemps parce qu'on a toujours des surprises.
Un mot sur une annexe, donc il y a l'épicerie proprement dite, mais aussi un café, qui est un lieu de rendez-vous, qui va être un repère café. Donc vous avez plusieurs vocations dans cet espace.
Voilà, c'est-à-dire que la transition, c'est pas que l'alimentation, bien sûr c'est important. et le bio est important, mais au-delà de ça, on a ce souhait d'être un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu de lien social. On met en place et on a déjà commencé à mettre en place des ateliers, utiliser les restes de pain sec, par exemple, utiliser les produits de base pour l'entretien de la maison, quels produits on a dans son placard et qu'est-ce qu'on peut en faire. Atelier couture, Ripper Café, atelier de sensibilisation, sur plein de domaines. Mais on va faire aussi des mini-concerts, on va faire aussi des projections de films, des rencontres de producteurs, des dégustations, etc.
Parfait. Pambio.fr pour l'adresse, c'est 7-9 rue du 26e bataillon de chasseurs à pied, le BCP de Pont-à-Mousson, le BCP de PAM. Merci Stéphane.
Merci beaucoup et bonne continuation dans votre voyage à travers les initiatives.
France Inter, carnet de campagne.
Le discours qui suit est direct et amplement humain. Pourquoi, lorsque l'on est issu de la grande précarité, n'aurait-on pas droit à une fin de vie, à un enterrement digne comme les autres? Merci tout d'abord à l'antenne TD Carmon de Nancy d'avoir posé la question et surtout d'y avoir apporté une réponse et une solution. Un long cheminement a été nécessaire avant qu'une prise en charge des indigents, comme on dit, puisse se réaliser. On vit une drôle d'époque, me direz-vous, en sachant que ces personnes sont enterrées dans un carré réservé par la commune, sans nom, sinon un simple numéro. Et c'est pour éviter ce départ sans aucun cérémonial et dans le plus grand anonymat qu'ATD Carmonde a créé une assurance obsèque à la portée des personnes et des familles en situation de grande précarité. En 2017, des membres de l'association à Nancy ont constitué un collectif de bénévoles sous le nom de Inhumer dignement nos morts, après avoir négocié un partenariat avec la ville de Nancy et un professionnel des pompes funèbres. Le Secours catholique, les Restos du Cœur, la Banque alimentaire et la Croix-Rouge fournissent aussi des vêtements et le service des pompes funèbres de la ville donne 1200 euros pour effectuer un enterrement digne et accompagner, entre guillemets, le défunt vers son inhumation. Alors, il n'y a pas de site pour cette association Inhumer dignement nos morts, mais vous avez un lien avec l'antenne d'ATD Carmonde à Nancy, vous allez le trouver à nos pages d'émission. Jean-Louis Laville, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Une nouvelle chronique solidaire avec vous. Je rappelle que vous êtes titulaire de la chaire d'économie sociale au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, auteur de plusieurs ouvrages. On met régulièrement à la fin de chaque chronique, à l'issue de chaque chronique, en ligne, une bibliographie que vous nous soumettez. Mais je rappelle le dernier volume que vous avez signé, Réinventer l'association chez Desclée de Brouwer contre la société du mépris. Aujourd'hui, on va parler d'économie sociale. Que faut-il entendre précisément par économie sociale ?
Tout d'abord, se rappeler que c'est pas tout à fait nouveau comme notion, puisque c'est apparu au milieu du 19e siècle. Au départ, c'était plus ou moins synonyme d'économie politique. Et puis, de plus en plus, l'économie sociale a posé des questions à l'économie en disant, il faut plus se préoccuper de la question sociale. On peut pas laisser ça comme ça. Et c'est là qu'il y a eu un premier théoricien très important pour l'économie sociale, Le Play, qui a fait une enquête sur la misère des ouvriers européens à l'époque.
Oui, parce que j'allais dire, c'est conditionné par les ouvriers et le monde ouvrier.
Et ça a été l'un des premiers, véritablement, à préconiser le patronage et le paternalisme. Donc il y a eu une première vague qui a été très marquée par ce courant moralisateur chrétien. Et puis ça s'est diversifié avec l'école de Nîmes, Gide en particulier, le plus connu, qui a remis en avant la question des coopératives ouvrières et la question également de la transformation sociale. Donc on voit qu'il y a plusieurs inspirations de l'économie sociale, à la fois une inspiration chrétienne, libérale, et une autre plus sociale, socialiste même à certains égards. Donc finalement, il y a une telle multiplicité de référentiels que l'économie sociale s'est de plus en plus gardée d'intervenir sur le plan politique et s'est redéfinie comme un secteur économique. Sous la plume des Fauquet ou Viennet, c'est comme ça, on a vu l'économie sociale comme des entreprises non capitalistes. Alors il y a les coopératives, il y a les mutuelles, il y a les associations qui en fait ont des principes communs.
Si on a un ordre d'idée, même un peu lointain, de la naissance des premières coopératives ouvrières, on peut les dater.
Seconde moitié du 19e siècle, avant on parlait d'association ouvrière, et puis peu à peu, l'appellation d'association coopérative et de coopérative a pris plus de place, en particulier à travers le débat sur la coopérative de consommation qui a été très important à la fin du 19e siècle.
Il y a des régions qui ont fait émerger des coopératives ouvrières, qui se sont
faire remarquer par le nombre de coopératives ouvrières qui pouvaient émaner de leur territoire.
Ah ben on en a parlé il y a quelques décennies, vous vous rappelez à propos de l'IP. Hein. On voyait bien que l'IP, c'était aussi toute une tradition de cette région qui s'exprimait à nouveau, qui ressurgissait. Et je crois que c'est important. Je discutais avec un collègue brésilien il y a peu de temps qui me disait, mais là où l'économie solidaire est en train d'émerger dans le nord-est du Brésil, quand on revient sur l'histoire, c'est aussi des lieux où il y a eu des insurrections, où il y a eu des révoltes, où il y a eu des volontés d'émancipation qui se sont exprimées très fort. Donc il y a cette espèce de tradition souterraine aussi qui mène parfois à l'éclosion des coopératives aujourd'hui. Mais c'est vrai que l'économie sociale a également fait un pari, celui des entreprises non capitalistes, une personne, une voix, une limitation de la distribution des bénéfices, mais elle a fait aussi le pari d'une exemplarité de ces entreprises en considérant que ces modèles allaient se diffuser parce qu'ils étaient meilleurs que les entreprises capitalistes. Et là, on voit bien que le modèle a rencontré des limites, hein, puisque finalement, les coopératives voulaient changer le marché. À bien des égards, c'est le marché qui a changé les coopératives, d'une certaine façon. Et on a eu un secteur qui a voulu se développer, mais en même temps est resté un secteur relativement modeste. Et je crois que c'est l'un des problèmes que pose aujourd'hui l'expansion de l'économie sociale. Il faut reconnaître que dans les derniers temps, il y a quand même eu de nouvelles dynamiques, hein, des nouvelles dynamiques justement à partir de coopératives. Beaucoup de coopératives s'étaient intégrées. Hein. On parle parfois d'agro-business, les coopératives agricoles étaient très intégrées à un modèle productiviste. Il y a eu de nouvelles coopératives autour de l'agroécologie, autour de ce qu'on a appelé les coopératives populaires dans certains pays, par exemple autour du tourisme solidaire. Donc, il y a de nouvelles dynamiques coopératives. Il y a aussi des dynamiques coopératives de reprise d'entreprises par leurs travailleurs. De ce point de vue-là, on a eu des exemples importants en France à travers ce qui s'est fait, par exemple, avec les ex-Fralib, ce qui s'est fait avec la Belle Aude qui a repris aussi une entreprise qui était une entreprise qui fabriquait des glaces. Et dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est que la reprise par les travailleurs a permis aussi de se poser des questions écologiques, c'est-à-dire de changer le modèle de production pour aller vers un modèle de production plus biologique. Et là, on voit bien qu'on est vraiment sur la transition entre cette tradition de l'économie sociale et ce que l'on appelle aujourd'hui l'économie solidaire, dont on parlera la prochaine fois.
Merci Jean-Louis, à bientôt.
À bientôt.
C'est tant bien que l'on parle d'économie sociale et solidaire, puisque chaque année, depuis plusieurs années, le mois de novembre est dédié à cette économie à travers différentes manifestations. Je vous invite, par exemple, par l'intermédiaire du collectif d'associations, s'appelle Estime, il y a un jeu de mots, EESS, plus loin, Team, l'équipe, ce samedi, 16 novembre, au Météor, à Mété, en Haute-Savoie, à Annecy, hein, c'est la comité d'agglomération d'Annecy, pendant toute l'après-midi, un forum des structures de l'ESS, des ateliers, des conférences, et puis on nous annonce aussi un spectacle, donc ce samedi 16 novembre, au Météor, à Mété, en Haute-Savoie.